paru aux éditions de La Licorne. Ces Vermisseaux, ce sont 10 ou 11 personnages que
Oui.
vous êtes allés chercher dans l'Évangile, que nous ne connaissons pas assez bien. Vous allez nous en parler. Ces Vermisseaux, au fond, est-ce que ça n'est pas nous?
Ces Vermisseaux, exactement, c'est nos modèles. C'est nos modèles parce que nous, on n'est pas obligatoirement encore tous des grands saints, hein, comme Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Louis, etc. Nous, on est les petits Vermisseaux. On n'y va qu'à un cas. Et c'est plutôt en étant pauvres et dépouillés, conscients de nos limites, de notre péché qu'on traîne avec nous, que peut-être on pourra se faufiler comme ça dans l'entourage de Jésus et qu'on pourra aussi se faufiler au paradis. Parce que pour passer la porte étroite, faut pas être un dodu. Il faut être un petit vermisseau comme ça qui peut se faufiler en étant dépouillé, en étant tout nu comme un ver de terre.
Alors ce livre d'une centaine de pages est savoureux. Vraiment, il nous permet de capter comme ça, d'attraper des personnages dans l'Évangile. Il y a de l'humour, des personnages vraiment qui étaient passés sous silence. Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes frère dominicain, vous êtes prêtre, vous êtes au couvent Saint-Jacques à Paris.
Exactement.
On vous doit des romans, des livres d'entretien et des biographies. La dernière que l'on vous doit aux éditions du Cerf, nous n'en parlerons pas énormément aujourd'hui, juste pour la citer, c'est une biographie de Saint Pie V, le pape intempestif. C'est le pape du Rosaire.
C'est le pape qui a fondé la fête de Notre-Dame du Rosaire après qu'il a remporté la bataille de Lépante contre les Turcs le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il avait demandé à toute la chrétienté de prier Notre-Dame du Rosaire pour la victoire des chrétiens parce que les barbaresques en fait pillaient les villages chrétiens tout autour de la Méditerranée et réduisaient les gens en esclavage. Des dizaines de milliers d'esclaves chrétiens qui se retrouvaient à Istanbul. Donc il fallait mettre la fin à ces razzias terribles du point de vue du coût humain, quoi.
On vous réinvitera peut-être, j'espère, promis, pour nous parler de Saint Pie V. Mais là, ces Vermisseaux, alors vous nous disiez c'est nous, les Vermisseaux c'est nous. Alors ça signifie que vous allez aller chercher dans chacun de ces personnages un aspect de leur sainteté qui peut nous rejoindre, des vertus, c'est ça ?
Exactement, des vertus toutes simples, il n'y a pas besoin d'être un grand mystique pour être fidèle par exemple, ou être opiniâtre. Regardez les deux brancardiers qui passent le malade, qui défoncent le toit pour faire passer le malade auprès de Jésus et pour le guérir. Donc c'est deux des personnages qui sont évoqués dans ce petit livre, parce que ça c'est leur opiniâtreté. Il y a trop de monde, ils ne peuvent pas passer par la porte, ils ne peuvent pas passer par les fenêtres parce que les gens sont agglutinés par la fenêtre. Ils veulent absolument sauver leur ami, c'est pas pour eux, c'est pour un autre. Ils disent comment on va faire, ils sont imaginatifs, ils grimpent avec une échelle ou un petit escalier sur le toit de la terrasse, ils défoncent, ils enlèvent les tuiles, etc. Et ils font dégringoler, descendre le brancard. Vous imaginez le bazar, ils font descendre le brancard au milieu de Jésus qui est en train d'enseigner aux gens dans cette maison. Et donc, c'est cette opiniâtreté que je salue. Et ça, c'est peut-être ce qui peut être pour certains d'entre nous un trait de notre foi. On n'est peut-être pas des grands mystiques, on n'est peut-être pas super, super bons en prière, etc. Mais on peut s'accrocher, on peut dire Seigneur, il y a des fois je doute, etc. Mais Seigneur, je suis fidèle, je m'opiniâtre, je veux aussi continuer à servir, même quand j'ai l'impression que c'est une goutte d'eau dans le désert.
Vous parlez des petits bergers, vous parlez de l'esclave du centurion. Il y a le jeune homme riche, et puis il y a ce jeune homme qui s'enfuit tout nu dans le jardin. Qui est ce jeune homme ?
Alors, le jeune homme, très curieux personnage qu'on ne voit que dans l'évangile selon Saint Marc. Alors, des gens ont dit, c'est peut-être l'évangéliste Marc qui se met en scène comme ça. Un personnage bizarre qui est au Jardin des Oliviers au moment où Jésus va être arrêté. Les gardes veulent l'arrêter en même temps que Jésus. Et hop, il est juste vêtu d'un drap. Et il attrape le drap et lui, hop, comme un vermisseau, il se faufile et réussit à s'enfuir à travers les oliviers tout nu. Nu comme un ver, comme un vermisseau. Et moi, j'imagine que, j'ai comme ça dans la méditation, je me dis, est-ce que ce personnage, plutôt que Saint-Marc, ça ne serait pas le jeune homme riche ? Ce jeune homme sur qui Jésus avait jeté un regard d'amour et que Jésus lui avait dit, viens, donne tous tes biens et suis-moi. Et le jeune homme avait renoncé à suivre le Christ, était parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il n'avait pas réussi à se dépouiller comme un vermisseau. Et puis j'imagine qu'au milieu de la nuit, il y réfléchit, il se tourne sur son lit, il se tourne, il se retourne, il dit « Mais quand même, j'ai rencontré ce rabbi qui est quelque chose d'étonnant. Il m'appelle à une aventure incroyable et moi, je suis là à vouloir garder mon petit confort, mes petites richesses. Il faut que j'aille le retrouver, il faut que j'entende son enseignement, il faut que je le suive. Et donc dans la nuit, il cherche son manteau, il n'y a pas de chandelle, il ne trouve pas son manteau, il s'emballe dans son drap de lit, il sort dans la rue, il demande aux gens « mais où est passé le rabbi ?» Et on lui dit « ah ben il est monté prier au jardin des Oliviers ». Il va au jardin des Oliviers, il voit les apôtres qui sont en train de dormir alors que Jésus est en train de prier, il est derrière un olivier, il va se précipiter pour dire à Jésus « mais maître, tu vois, tu n'es pas tout seul ». Je suis là, je t'aime, j'ai réfléchi, tu as raison, c'est en te suivant qu'on peut avoir la vie éternelle, qu'on peut être heureux, tu nous ouvres un chemin de bonheur. Et au moment où il va se précipiter pour réconforter le Christ au jardin des Oliviers, paf, il y a les gardes avec leurs bâtons, leurs flambeaux là, qui arrivent, armés de glaives, etc., qui arrivent pour arrêter Jésus. Ils veulent aussi mettre la main sur le jeune homme riche et hop, lui il s'enfuit tout nu. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, lui qui était trop riche, poursuivre le Christ, il se retrouve complètement nu comme un vermisseau. Et donc, c'est le miracle que Jésus accomplit au Jardin des Oliviers. Ce jeune homme qui n'arrivait pas à se dépouiller, il repart complètement dépouillé et donc il est sauvé.
Frère Philippe Verdun, c'est votre interprétation.
Oui, oui, oui. Mais oui. Toute notre vie chrétienne, depuis 2000 ans, on passe notre temps de génération en génération à lire, à relire les évangiles et à creuser de plus en plus profond pour comprendre avec de nouveaux éclairages le mystère de la foi pour nous nourrir, nous, aujourd'hui. Hein, parce que ce jeune homme riche, c'est peut-être nous. Nous aussi, on a notre petit confort, nos petites habitudes. Évidemment, on voudrait suivre le Christ. Évidemment, on voudrait tout donner, partir sur les routes comme saint François d'Assise, etc. Et puis, en fait, on rêve de ça. Puis, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Des fois, on donne un peu, mais on n'arrive pas à donner toute notre vie. Et bien, ce jeune homme riche, ce vermisseau, il nous apprend que peut-être il faut nous laisser dépouiller. Si on n'arrive pas, nous, à donner, il faut laisser Jésus nous prendre. Voilà, il faut s'abandonner, quoi. Bon, ça... Voilà, donc c'est évidemment mon interprétation.
Est-ce que vous avez eu l'embarras du choix pour tous ces personnages? Il y en a 11, on disait.
Oui, dizaine. Oui, oui, il y a Jeanne, la femme de l'intendant Hérode. Il y en avait trop, il y a le petit gamin que Jésus place. Évidemment, c'est le vermisseau par excellence, ce petit gamin que Jésus place au milieu des apôtres en disant « Si vous ne devenez pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu », ce qui nous est dit aussi à nous, ce qui est exactement ce qui est arrivé à des saints comme Sainte Bernadette. C'était la plus petite et la plus humble, et c'est pour ça que la Sainte Vierge l'a choisie. Alors évidemment, j'aurais pu en choisir d'autres. Là, je discutais pas plus tard qu'il y a deux jours avec un frère dominicain de ce petit livre, « Les Vermisseaux de l'Évangile », et il me disait « Est-ce que tu as mis dans ton livre la belle-mère de Pierre ?» Je me dis « Ah zut !» J'aurais eu comme lectrice toutes les belles-mères, parce qu'elle est incroyable cette figure, je l'ai oubliée. La belle-mère de Pierre que Jésus guérit, pour qu'elle puisse faire la cuisine à toute la bande qui débarque sans crier gare à Capharnaüm.
Ce sera le tome 2 peut-être.
Oui, il y a aussi la vieille dame qu'on voit qui met juste deux piécettes dans le trésor du temple. Vous voyez, il y a tous ces personnages, oui. beaucoup de personnages qui ne font que passer comme ça dans l'évangile. Et je pense que si les évangélistes ont parlé d'eux, c'est quand même qu'ils ont quelque chose à nous dire. Voilà. Et ça nous invite aussi à reprendre l'évangile avec un autre... par une autre petite porte, voilà, par la petite porte. Hein. Relire les évangiles avec les petits personnages comme ça, pas les grands saints, Jacques le Majeur, Saint Jean l'Évangéliste, tous les...
Oh, qui sont saints, formidables. Hein,
qui sont des sacrés bons hommes, hein, oui. Saint Paul, n'en parlons pas. Mais là, c'est les petits qui ne font que passer et pourtant, ils ont laissé leur trace.
Parlez-nous de Jeanne. Je vois Jeanne, femme de Chouza.
Voilà, alors femme
qui
incroyable,
est,
alors, il n'y a que Saint-Luc qui en parle. Saint-Luc, vous savez, il a une notation particulière pour les femmes. Hein. On pense d'ailleurs, c'est les exégètes qui le disent, qu'il a connu beaucoup d'épisodes de la vie du Christ en allant sur place à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem, interviewer les gens qui avaient connu le Christ et notamment les femmes. Donc il a un éclairage un peu singulier par rapport aux autres évangélistes, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt d'avoir plusieurs évangiles, c'est que chaque fois on a un regard complémentaire. Et il a entendu parler de cette Jeanne dont on ne parle jamais. Il y avait plusieurs compagnes de Jésus, avec Marie Madeleine, avec la Vierge Marie évidemment. Il y avait Suzanne, une fameuse Suzanne, dont on n'a que le prénom, et il y a Jeanne, femme de Chouza, elle est la femme de l'intendant d'Hérode. Donc
c'est un personnage important.
Donc c'est certainement un personnage important dans la cour. Peut-être était-elle là, au banquet, où Hérode a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. En tout cas, ce que nous dit Saint-Luc, parce qu'elle était à la cour, hein, la femme du ministre du budget, vous voyez, elle faisait partie de l'entourage proche d'Hérode, forcément. Ce que nous dit explicitement Saint-Luc, c'est qu'elle a été guérie par Jésus. et que à la suite de cette guérison, elle l'a suivi sur les routes de Nazareth. Et on peut, alors là c'est moi qui imagine, mais je me dis c'est une femme de la haute bourgeoisie de Jérusalem. Elle a dû certainement, avec les relations qu'elle avait par son mari qui était ministre du budget, organiser un peu l'intendance de toute cette petite troupe qui marchait sur les routes, qui faisait des guérisons, des prédications, etc. Mais il fallait bien quand même qu'il y ait des femmes qui s'occupent de trouver les logements, les lits, l'intendance, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, etc. Et j'imagine que Jeanne était parmi ces femmes. Et l'évangéliste Luc nous dit aussi qu'elle était présente à deux moments extrêmement importants de la vie de Jésus. Elle était au pied de la croix, avec Marie. Elle était au pied de la croix, alors que les apôtres avaient disparu, hein, les grands, les braves gros pêcheurs poilus, virils. Oui, nous te suivrons partout. Et puis personne. Hein. Il y avait le petit Jean et les femmes, dont Jeanne, femme de Chouza. Et on la retrouve enfin au matin de la résurrection. Elle est l'une des premières témoins de la résurrection. Donc c'est quand même pas n'importe qui, cette Jeanne, femme de Chouza, dont on parle jamais. Et ben donc moi je me suis dit, célébrons pour une fois cette femme qui a été aussi le signe de la fidélité jusqu'au bout, au pied de la croix. Hein. Et au matin de la résurrection. Et elle fait partie de ces femmes dont Luc dit, eh ben, elles sont venues dire aux apôtres qu'elles avaient vu le Christ ressuscité, mais les apôtres n'en ont rien cru, ils ont pensé que c'était texto des bavardages de bonnes femmes. Eh bien elle, Jeanne, elle a porté son témoignage, elle a dit aux apôtres, le Christ est ressuscité, les apôtres ne voulaient pas la croire, elle s'en fiche, elle a eu ce trésor de rencontrer le Christ ressuscité et qui s'est manifesté à elle, et c'est un trésor qu'elle a eu pour toute sa vie.
Ce livre s'intitule « Vermisseau de l'Évangile ». Ce sont de minuscules personnages, hein, c'est le mot que vous employez, qui nous enseignent la simplissime sainteté. Et c'est signé le frère Philippe Verdun. Nous attendons quelques instants, frère Philippe Verdun, et puis juste après, nous continuons cet entretien avec vous. Et c'est paru aux éditions de La Licorne. À tout de suite.
Présence.
Immersion. Immersion. Dans Immersion, je vous propose une plongée au cœur de la vie chrétienne. 27 minutes de reportages, d'enquêtes et de témoignages pour découvrir et comprendre la richesse et la diversité de la vie chrétienne de notre région.
Immersion, pour plonger au cœur de l'expérience spirituelle.
Le mardi à 18h15, le vendredi à 11h03 et le dimanche à 10h.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
C'est vous, frère Philippe Verdun, qui êtes l'auteur de ce livre « Vermisseau de l'Évangile », ces petits personnages hein, qui nous enseignent, vous le dites vous-même, la simplissime sainteté. C'est-à-dire, c'est un moyen pour tout un chacun, ceux qui nous écoutent là, d'accéder à des vertus et se dire « pourquoi pas moi ?» hein. Et ce personnage, qui est minuscule dans l'Évangile, il me rejoint là où j'en suis moi. Ce livre « Vermisseau de l'Évangile » est paru aux éditions de La Licorne. Vous, frère dominicain, on vous doit des gros pavés, mais là, c'est un petit opuscule facile à lire. Je pense que dans les transports, par exemple, on peut
dans les sacs à main des dames.
Dans les sacs à main, ou même pour vous, messieurs. Hein.
Sac à dos des messieurs.
Il y a une centaine de pages. Il y a forcément un personnage qui va faire paf, qui va vous rejoindre là où vous en êtes. Et la question qu'on se pose, et que vous vous posez également, frère Philippe, c'est mais pourquoi Jésus s'intéresse-t-il à ces vermisseaux, à ces petits personnages?
Alors c'est,
vous avez pourquoi raison. Sont-ils si importants?
Ouais, Mathias, vous avez raison, vous posez la question essentielle. C'est que Jésus s'intéresse aussi bien aux riches, aux notables, hein, Nicodème, ou Zachée, qui était un gars, ou même Saint Matthieu, qui étaient des gens qui étaient des hommes d'argent, que aux gens les plus simples. Mais ceux qui nous donnent comme modèle, ce sont les simples.
Et pourquoi donc, ils préfèrent les petits.
Ils préfèrent les petits, mais il faut se poser la question, pourquoi ? Ils préfèrent les petits, parce que les petits, ils attendent tout de Dieu. Comme ils n'ont rien, ils sont petits, comme des enfants, si vous voulez. C'est pour ça que Jésus dit, si vous ne devenez comme cet enfant, il prend un petit gamin qui doit avoir 5-6 ans, et les exégètes nous disent que probablement Jésus était en permanence entouré d'une bande de marmots qu'il suivait comme ça sur les routes. Hein, un peu comme au soleil de la Galilée, ça devait être assez impressionnant dans la poussière, etc. Alors il y avait et c'était ces gamins là qui sont notre modèle à nous pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? D'abord parce que les gamins ça n'est pas très inquiet, ça fait confiance à son père, admiration devant leur papa, les enfants, et donc nous devons faire pareil avec notre Père du ciel, être prêt à tout recevoir de Dieu, lui faire confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est la foi. Faire confiance en Dieu, c'est tout. Faire confiance. Premier trait. Deuxième trait, les gamins, ils jouent tout le temps, ils chantent tout le temps. Il y a ce petit passage tout à fait savoureux dans l'évangile qui dit vous êtes comme ces gamins sur la place du village, on a joué de la flûte, vous n'avez pas voulu danser, on a chanté un air triste, vous n'avez pas voulu pleurer avec nous. Bah, à un moment, que votre oui soit oui, quoi. Vivez dans l'ambiance un petit peu. Et les gamins, ils sont très sensibles aux ambiances. Dès qu'il y a un peu de tam-tam, un peu de guitare, un peu de chant, ils y vont, ils aiment bien chanter, etc. Et nous, ce que nous devons faire, peut-être le plus simple pour notre chemin de sainteté, c'est peut-être simplement de chanter les beautés que le Seigneur nous offre. Est-ce qu'on fait assez de louanges dans notre vie? Moi, je ne suis pas particulièrement charismatique, mais je me dis quand même que c'est une chose que le renouveau charismatique nous a apporté. C'est ce goût pour en permanence chanter la gloire de Dieu. Il y a un psaume qui dit « Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait ?» Qu'est-ce que je pourrais bien faire au Seigneur? Chanter sa gloire. J'élèverai la coupe du salut, je chanterai son nom. Voilà. Et les gamins aussi, ils sont complètement dépouillés, ils n'ont rien par eux-mêmes, ils dépendent complètement de leurs parents, et nous, il faut que nous apprenions aussi à dépendre complètement de Dieu. Il faut qu'on s'abandonne, on faire confiance, la foi, l'espérance et l'amour.
Donc vous nous dites, ces petits personnages que vous croquez en quelque sorte dans cet ouvrage, ils ont quelque chose de l'enfance, par exemple le porteur de cruche.
Le porteur de cruche, c'est un personnage...
Je ne m'étais jamais intéressé pour ne rien vous cacher.
Oui. Alors il y a des exégètes qui font des grandes théories en disant normalement, du temps de Jésus à Jérusalem, ce n'était pas des hommes qui portaient les cruches, c'était des femmes. Bon, moi je ne me suis pas trop arrêté à cet aspect parce que si ça se trouve, la cruche était trop lourde, donc ils ont demandé à un homme. Il ne faut peut-être pas non plus aller chercher tout le temps des trucs trop compliqués. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Jésus dit aux apôtres, vous allez rentrer dans la ville et près de la porte rouge, vous verrez un gars qui porte une cruche, vous le suivrez et il vous emmènera au cénacle. Et moi, je prends ce porteur de cruche, c'est nous. Nous portons un trésor, nous portons l'eau vive, nous portons un trésor puisque nous sommes baptisés. Et ce trésor, nous ne pouvons peut-être pas, nous sommes tous peut-être pas des grands prédicateurs, des grands théologiens, des grands mystiques, des grands missionnaires qui pouvons grimper sur un tabouret au milieu de la place de la ville pour annoncer Jésus en brandissant un crucifix. Mais ce que nous pouvons faire, c'est être un indicateur, celui qui montre le chemin. Par notre vie, par notre joie, montrer le chemin de l'espérance, de la source d'eau vive qui est par exemple la messe. Inviter tout simplement les gens à venir avec nous à la messe. Ça demande déjà du courage. C'est ça qu'il a fait le porteur de cruche. Il a guidé les apôtres vers le cénacle où allait être célébrée la première messe. Faisons ça déjà. Invitons nos amis à venir avec nous à la messe. Si on faisait ça déjà, vous vous rendez compte le rayonnement missionnaire que ça aurait? Alors évidemment, il faut choisir une messe qui est un peu dynamique, un peu sympa, un peu joyeuse. Parce que sinon, les gens qu'on va inviter, ils vont dire « ta messe, c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux ». Vous voyez, mais c'est, la mission pour nous, c'est peut-être simplement de dire « venez et voyez ». Venez et voyez, c'est ça qu'il a fait le porteur de cruche. Il a juste été le guide. Il n'a rien fait, lui. Il a juste entraîné les autres.
Frère Philippe, est-ce que ça ne manque pas un peu d'ambition, si je puis me permettre de vous provoquer? Parce que à vouloir porter au nu des gens petits, des vermisseaux, on dit c'est déjà pas mal, essaie d'atteindre ça. Alors que dans les actes d'éducation, les parents ils veulent donner de l'ambition à leurs enfants, leur dire « faut aller plus haut, plus loin, plus fort ».
Alors vous avez tout à fait raison, c'est un peu le paradoxe de l'évangile, c'est que le paradoxe c'est ces tout petits, ces humbles, en fait sont des grands.
Ah.
C'est eux les grands. C'est eux les grands. C'est eux les grands parce qu'ils ont la force, le courage de suivre le Christ. Le Christ est passé et eux, ils l'ont suivi. Et ça, parce qu'ils étaient justement pas... ils étaient libres, ils n'étaient pas engoncés. Donc finalement, ces petits, ils sont libres. Ils sont courageux parce qu'ils ont suivi le Christ. Ils ne savaient pas où ça les emmenait. Et ils sont opiniâtres. On aimerait bien, beaucoup de parents aimeraient bien que leurs enfants soient un peu plus opiniâtres dans leurs études et se dispersent un peu moins. Eux, ils sont opiniâtres. Quoi qu'il en coûte, alors que les gens disent « Ouais, ce rabbi, c'est un ivrogne, un glouton !» C'est comme ça que les contemporains de Jésus voyaient Jésus. Certains contemporains de Jésus disaient « C'est un ivrogne, un glouton !» Il mange avec les pêcheurs et il fréquente des femmes bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce... On aimerait bien un saint un peu plus propre, plus net, un peu qui rentrerait mieux dans les niches de nos églises, avec la tête un peu penchée, en tirant un peu la langue, et puis tout pieux. Et Jésus, par ses contemporains, il n'est pas vu comme un personnage pieux, il est vu comme l'inverse. Un ivrogne et un glouton, Hein. Et ben, eux, ils ont accepté de suivre ce personnage improbable parce qu'ils ont vu dans son regard et ils ont entendu dans ses paroles la source de la vie éternelle. Donc, en fait, ces petits sont des grands parce qu'ils ont le courage et ils ont l'opiniâtreté et la foi. Et ben, moi, je dis chapeau. Hein. Donc, commençons déjà par les petites choses hein, et peut-être après, quand nous serons entraînés, c'est comme quand on fait du sport, vous savez, si vous y allez tout de suite à faire de la muscu avec des énormes poids de 80 kg, vous allez avoir des courbatures et au bout de deux jours, vous ne voudrez plus faire du sport parce que vous aurez trop mal. Non, il faut y aller en petite foulée hein, et puis au début, il faut y aller doucement à l'exemple de ces vermisseaux de l'Évangile. Puis après, si Dieu veut, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous deviendrez un grand saint, une grande sainte et vous convertirez le monde et vous mettrez le feu au monde.
Donc, vous pouvez y aller avec les petits bergers, avec l'esclave du centurion, avec la femme de Pilate. On a parlé du porteur de cruche. Bon, il y a des personnages comme ça dans ce petit ouvrage « Vermisseau de l'Évangile ». Ma dernière question, c'est comment on peut aller plus loin ? Il y a un petit chapitre où il y a quelques pages à la fin où vous dites « Poursuivre le chemin avec les vermisseaux ». Là, c'est une invitation ?
C'est une invitation parce que il faut approfondir. Hein. C'est un petit peu ce que Mathias, votre question précédente. Il ne faut pas en rester simplement.
On
admire Jésus, c'est super, etc. Non, non, il faut approfondir. Et d'ailleurs, c'est un peu le prétexte de ce livre. Par exemple, déjà, lisez un peu plus la parole de Dieu, l'Évangile. L'Évangile. Oui. Il y a plein de choses dans l'Évangile que vous n'avez pas encore découvertes. Ben faites cet effort. Hein. Allez plus loin. Allez plus loin dans la connaissance du Christ. La vie des sacrements, hein, pour devenir des vermisseaux, pour se dépouiller, on n'y arrivera pas avec nos petits bras. Il faut la force de l'Esprit Saint qu'on reçoit dans les sacrements. Hein. Et puis si aussi vous voulez poursuivre le chemin, ben, je donne des pistes de biographie avec des livres un peu plus costauds hein, de mon cher frère dominicain le père Philippe Lefebvre qui lui a écrit un livre sur les vermisseaux de toute la Bible hein, qui s'appelle Brève rencontre les vies minuscules de la Bible aux éditions du Cerf. Mais c'est vrai qu'il faut choisir un de ces humbles, n'importe lequel, hein, pas obligatoirement celui l'un de ceux ou de celles qui sont dans mon livre, mais celui que vous voulez dans l'Évangile, qui sera un peu votre parrain, celui qui va vous parrainer dans cet exercice de dépouillement auquel le Christ nous invite pour être les enfants qui peuvent à sa suite se faufiler comme ça dans le royaume.
Bon, eh bien, je vous encourage hein, les uns et les autres à vous procurer ce livre « Vermisseau de l'Évangile ». Forcément, ça va vous rejoindre, ça peut vous faire rire. Oh, parfois, c'est émouvant aussi. On se dit « Oh là là, quel effacement !» Enfin bref, toutes les vertus y sont compilées en quelque sorte. Une vertu ou deux à travers chaque personnage.
Exactement.
Hein. C'est
exactement.
Ça.
Comme
ça
chacun incarne un talent qu'il a su développer pour suivre le Christ.
C'est paru aux éditions de La Licorne. Merci beaucoup, frère Philippe Verdun, qui est dominicain, hein, auquel on doit cet ouvrage, mais d'autres encore. Et merci, à bientôt sur cette antenne.
J'espère, merci beaucoup Mathias.
Au revoir.
Au revoir.
Présence. Présence.
De passage à Lourdes. Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Thank you. de la musique, de l'opéra et des experts tous mélomaniaques. Voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez partager l'analyse et le coup de cœur de nos chroniqueurs. Mélomanie, une émission animée par Éric Dupri,
le vendredi 19h et le samedi 10h03,
en partenariat avec Amadeus Piano.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres. Radio Présence
à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Verrai-je la fin? Des cicatrices dessinent des traits sur ma peau basanée. Verrai-je la fin?